Le plein d'énergie, c'est dans Total Énergie. Pendant 58 minutes, faites la ronde de tout ce qui concerne la jeunesse du pays et d'ailleurs. On se retrouve donc à partir du 15h, du lundi au vendredi. Je suis Pamela Munazo et je serai de la partie.
Et oui, c'est parti. On va parler aujourd'hui du cancer du sein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le prévenir? Vous savez, parmi les cancers les plus fréquents chez la femme, le cancer du sein, selon certaines études, une femme sur 10 risque d'être atteinte de ces cancers au cours de sa vie. Quels sont les facteurs de risque d'un cancer du sein et comment peut-on le prévenir? Nous en parlons avec Dr Solange Ngondo. Bonjour. Vous êtes gynécologue à la clinique Ngaliema. Nous parlons aujourd'hui du cancer du sein. Première question, c'est quoi le cancer du sein?
Le cancer du sein, c'est l'apparition d'une tumeur qu'on dit maligne, hein, c'est-à-dire d'une néoformation qui a des caractères d'expansion donc au niveau du sein. Hein, je peux dire comme ça, d'une façon... général, quoi.
Oui. Et qu'est-ce qui explique que ces derniers temps, on note il y a en quelque sorte une augmentation des cas des cancers des seins chez les femmes?
Je ne peux pas dire qu'il y a augmentation des cas, mais je pense que maintenant, il y a des femmes qui se font examiner et on a fait des études aussi, hein, chose qui n'était pas pareil dans le temps, quoi, hein, oui. Dans les années passées. Je pense que maintenant, il y a plus d'examens, les malades consultent, et puis on peut mettre en évidence leurs problèmes, quoi. Donc, oui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on pense que l'incidence est élevée, mais je pense que c'est parce qu'il y a des mesures de prévention ou bien d'examens qui sont plus élevés, quoi.
Oui. Alors, docteur Solange, quelles sont les causes qui sont à la base de ces cancers de sein?
Parler des causes, là, je devais entrer dans la génétique, dans la cytogénétique et tout ça, pour vous parler des protéines oncogènes, non oncogènes, ça c'est compliqué.
Oui, mais d'une manière simple.
Mais je pense que ici on parle plus de facteurs de risque. Hein? On a plus fait des études sur les facteurs de risque. On ne sait pas quelle est la cause exacte de la survenue d'un cancer de sein. Il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui sont liés à la reproduction. Mmh. Par exemple, il est prouvé que les femmes qui ont des maternités après 30 ans courent 3 fois le risque de développer un cancer. Il y a le fait d'avoir eu un cancer dans un sein qui élève aussi le taux de risque de survenue de cancer dans l'autre sein.
Oui.
Il y a des prédispositions familiales, c'est-à-dire quand dans la famille il y a eu un cancer, même s'il n'est pas du sein, par exemple cancer de côlon ou bien cancer de foie, je pense, il y a des prédispositions dans cette famille à faire des cancers, donc il faut faire attention. Il y a le fait aussi de ne pas avoir d'enfants, hein, la nulliparité augmente les risques, l'absence d'allaitement, ça peut aussi augmenter les risques. Il y a la survenue de certaines maladies bénignes dans le sein. C'est ce qu'on appelle mastopathie bénigne. Ça peut prédisposer à la survenue de cancer.
Oui.
Il y a le niveau socio-économique. Par exemple, le haut niveau socio-économique, on a vu que c'était la maladie des riches. Hein?
Oui.
Donc, une vie familiale aisée. Parce qu'on voit aussi les gens qui ont un niveau de vie élevé, ils ont souvent du stress fréquent. Hein? Donc, les gens qui gèrent beaucoup d'argent, ils ont souvent du stress. Et tout, on a vu que le stress fréquent était aussi un facteur de risque. Il y a l'obésité, donc on a assez de moyens, on mange beaucoup, on prend du poids et tout, on bouge moins parce qu'on est tout le temps dans les véhicules et tout ça.
Oui.
Donc l'obésité, c'est un facteur de risque. Il y a aussi les comment menstruations, par exemple. On a décrit dans la littérature que la survenue de premières règles précoces prédisposées, comme la ménopause tardive,
et puis
il y a aussi d'autres causes. Hein. Certains pensent que ça peut être lié à la race. On a vu que la race blanche avait un peu plus de cancer que la race noire. Est-ce c'est vrai ou pas? Ça, c'est encore au niveau des études. Peut-être que les blanches se font plus examinées que les noirs.
Oui.
Je ne sais pas, là, c'est encore dans les études. Voilà.
Ouais, est-ce qu'on peut également affirmer que l'alimentation, ce que nous mangeons tous les jours, les aliments, peut aussi causer un cancer de sein?
Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que l'obésité,
oui,
augmenter le risque de survenir du cancer.
Oui, l'obésité, mais pour une personne qui n'est pas obèse, mais qui mange normalement, est-ce que...
Je pense pas que l'alimentation comme telle, non, je peux pas pointer tel aliment, non, je pense pas. Mais on a vu dans les études, par exemple chez les femmes japonaises, qu'elles avaient moins de cancer du sein parce qu'elles mangeaient plus de grains de soja, des trucs comme ça. Donc ils ont découvert que dans le soja il y avait des facteurs protéger quoi, donc je peux pas dire exactement quel aliment.
Vous avez des questions, des réactions, composez le 081-893-6394. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net.
Chaque samedi à 8h30, Radio Capi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Capi pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
Bien, nous parlons du cancer du sein, comment le prévenir avec Dr Solange Monod, gynécologue à la clinique Gallimard. Nous avons une première question. Docteur, est-ce qu'il y a moyen de dépister précocement un cancer du sein? C'est la question de Cathy depuis Lubumbashi.
Oui, tout à fait. C'est même, pas de dépister, il y a moyen de prévenir. C'est-à-dire, chaque femme qui a déjà une vie hormonale, c'est-à-dire qui a menstruations, devait pratiquer ce que l'on appelle l'autopalpation du sein. Donc, elle doit chaque matin se mettre devant son miroir, commencer la palpation du sein, la main à plat sur les seins, donc elle écrase le sein contre sa poitrine, là, et elle va de l'intérieur vers l'extérieur en faisant le contour de tout le sein pour voir si elle peut sentir quelques nodules dans le sein et tout. Ok?
Oui.
Et chaque fois qu'on a décelé une anomalie, quelque chose qu'on n'avait pas perçu avant, il faut aller voir le médecin qui peut faire des radiographies et tout, des échographies, pour voir s'il y a des débuts de formation de tumeur. Il y a moyen de dépister à temps.
Voilà, donc il y a moyen de dépister à temps. Est-ce que dans notre pays, nous avons l'équipement, tous les équipements qu'il faut?
Oui, l'équipement est là.
Pour détecter?
Oui, nous avons l'équipement.
Oui.
De ce côté-là, nous avons l'équipement de détection. Là,
voilà, donc vous conseillez aux femmes l'autopalpation du sein.
L'autopalpation du sein tous les jours.
Tous les jours.
Et à partir d'un certain âge, par exemple 30 ans, dans d'autres pays, il y a des radiographies qui sont systématiques tous les 6 mois, tous les ans. Hein? Donc il faut au moins une fois par an faire un petit check-up. Faire un petit check-up pour éviter de comment tomber dans des cas dramatiques.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui sont passées par le dépistage et le cancer a été dépisté tôt et ces femmes ont été guéries, soignées et puis guéries de cette maladie?
Oui, j'en connais des cas. Stressés, mais le traitement dans ces cas, c'est la chirurgie, c'est l'ablation du sein. Donc,
il n'y a pas une autre solution.
Appelle une mastectomie. Donc, on enlève le sein et on va jusqu'à curer le ganglion et tout. La sanction, elle est un peu dure, quoi.
Oui. Ouais, dommage. Des questions, des réactions, 081-8-69-63-94. On détecte que la femme a ce cancer, hein, il faut carrément couper les seins.
L'ablation du sein.
Voilà. Ouais, donc il n'y a pas une autre solution.
Non,
à part celle-là.
Bon, chez nous, c'est l'ablation du sein.
Oui.
Bah, dans certains pays, quand la tumeur est un peu et n'est pas invasive, on peut faire une radiothérapie, on peut faire une chimiothérapie, mais dans la majorité du cas, il faut enlever le sein et puis combiner à une radio ou bien une chimiothérapie.
Et si, par exemple, la tumeur peut se développer et attaquer aussi l'autre sein, c'est probable?
Non, ben la tumeur ne peut pas attaquer l'autre sein, mais il peut aller vers les autres organes. Mais il peut y arriver aussi qu'il y ait les métastases, se généralisent et puis passent aussi à l'autre sein. Hein. Mais ce n'est pas une contagion systématique, hein, comme on penserait, donc une contiguité comme ça, non.
Voilà. Merci beaucoup. Nous avons également une question de Madame Claudine. Elle dit « Bonjour docteur, je suis à Brazzaville. Il semble que les déodorants antiperspirants et les sticks peuvent causer à la longue le cancer du sein. Et c'est vrai ?»
Pas tous les déodorants. Il y a des déodorants qui contiennent un certain produit, l'aluminium, je crois.
Oui.
Je n'ai plus trop l'aluminium, quelque chose comme hydroxyde d'aluminium ou quoi. Et l'on a décrit que ce composant-là était nocif pour l'organisme et qu'il n'était pas bon d'utiliser des déodorants qui sont à base, enfin, qui le contiennent, quoi.
Oui, et les sticks.
Quoi, tu dis?
Et à propos des sticks, est-ce que...
Oui, tous les produits, ça soit des savons, quoi, oui. qui sont à base de ce produit-là, il n'était pas conseillé de les utiliser, parce qu'on a vu dans les études que ce produit était à la base de certaines réactions qui n'étaient pas bonnes pour la santé.
Et comment le savoir? C'est ça également la grande question.
Donc, quand on achète un produit, il faut lire. Il y a toujours un emballage. Il faut lire la composition du produit. Ok, il faut lire. Je crois que c'est l'hydroxyde d'aluminium, quelque chose. Hein?
Oui, voilà. Nous avons également en ligne...
L'hydroxyde d'aluminium, quelque chose comme ça, je pense. Hein? Donc, il faut lire sur l'emballage.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Irondelle. Avec le soutien de OCITA et des gouvernements de Suisse, de Suez, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Bien, nous parlons du cancer du sein, comment le prévenir, avec Dr Solange Ngondo, gynécologue à la clinique Ngaliema. Nous allons à présent recueillir la question de Sidonie Kayenga, qui nous appelle depuis Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, Sidonie Kayenga, quelle est votre question?
Oui, ma question, je voudrais poser à l'invité de savoir comment est-ce qu'on peut, donc le docteur pourra palper d'une certaine manière déterminée si la personne a le cancer donc des seins, passé par la mère par exemple, comment est-ce qu'il peut se déterminer? Juste par les tissus. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que les femmes qui mangent beaucoup, donc les viandes qui sont contenues dans les boîtes, est-ce qu'ils ont aussi la possibilité d'avoir le cancer? Et la troisième question était de savoir est-ce que si la femme n'a pas allaité jusqu'à 3 à 2 mois avec le bébé, elle a aussi la possibilité d'avoir un cancer de sein. C'est ça mes questions.
Vous avez parlé des viandes qui sont dans les boîtes
Les viandes, oui, les viandes contenues dans les boîtes de conserve comme les cornets et autres. Il y a beaucoup de viandes, même des tout ça, tout ce qui est contenu dans les boîtes de conserve, est-ce que ça a un impact donc, sur la santé de la femme qui peut donc amener à avoir un cancer?
Merci Sidonie. Docteur Solange?
Ouais, je peux répondre à la première question.
Oui.
Je pense qu'elle veut savoir comment pratiquer l'auto-examen du sein, je pense que c'est ça la question.
Oui, et comment déterminer qu'il s'agit, qu'il y a soit un début de cancer?
Ouais, c'est-à-dire, d'abord quand la femme arrive à la consultation, on l'interroge.
Oui.
Donc on l'interroge sur certaines questions, la date, les conditions d'apparition de la lésion, est-ce que cette lésion est douloureuse ou non? Et est-ce que cette lésion a pris du volume par rapport à son apparition? Donc au moment de l'apparition, elle a été enceinte? Est-ce qu'elle avait déjà allaité? On va poser des questions sur ses règles, son cycle menstruel. Est-ce qu'elle avait subi un certain traitement à base d'hormones? Est-ce qu'elle a subi des examens ou bien des interventions au niveau du sein? Et puis sur les antécédents, s'il y a des facteurs de risque dans sa famille ou pas. L'inspection, c'est fait, la malade, elle est debout. Elle va... Là, c'est le médecin qui examine. D'abord, on va regarder l'inspection.
Oui.
La malade relève son bras, donc le bras homolatéral, le bras du côté du sein concerné.
Oui.
Elle va sur la tête et on va voir si ce sein-là bouge. Tu vois, donc il y a soit une ascension ou bien le sein reste en place ou la lésion est modifiée. Donc on inspecte, on voit si au niveau de la lésion il y a une rétraction. Donc la peau est tirée et plissée ou bien s'il y a des capitonnages, donc on va regarder et après on va examiner, on va palper la lésion pour voir si elle est douloureuse. On va la palper et on va chercher les ganglions. Donc au niveau des aisselles, sous son chat, s'il y a des ganglions à ce niveau. Et après, il y a des examens complémentaires qu'on peut demander. On peut faire une biopsie, on peut demander une radiographie du sein, il y a une échographie du sein.
Oui.
Et l'examen qui peut nous confirmer notre diagnostic, c'est la biopsie. On peut faire une biopsie au niveau de la lésion et qu'on envoie pour un examen anatomique.
Voilà, une autre question. Est-ce que les femmes qui consomment les viandes contenues dans les boîtes de conserve sont exposées au cancer?
Non. En tout cas, dans la littérature, je n'ai pas lu quelque chose de ce genre, non.
Voilà. Elle pose encore une autre question. Une femme qui n'a pas allaité son enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, est-ce qu'elle est exposée?
On a dit que l'allaitement augmentait, je crois, par 2. Le risque de survenue du cancer, comme le fait de n'avoir pas allaité. Donc, c'est un facteur de risque, l'allaitement, ou bien le non-allaitement. ça ne veut pas dire que celui qui l'a fait aura, ou celui qui ne l'a pas fait n'aura pas, ou bien le contraire, mais c'est un facteur de risque. Le fait de le faire, comme de ne pas le faire.
Voilà, donc la solution, c'est que chaque femme doit faire l'autopalpation des seins
chaque matin. Et puis un check-up systématique.
Après combien de temps, à la fin de chaque mois?
Cela dépend, je pense que quand on a déjà 30 ans ou bien 40, on devrait le faire peut-être une fois par an.
Oui.
Ou quand on est déjà dans la ménopause, tous les 6 mois, ce serait mieux.
Bien, nous allons accueillir la dernière question qui vient de Baudouin, depuis Colosi. Bonjour Baudouin.
Bonjour Jody, Daniel Kassama, bonjour aussi à notre invité. Je voudrais bien poser la question au docteur. Pour une jeune fille qui n'a pas encore mis au monde, est-ce qu'elle peut développer à la longue le cancer des seins? Et ma deuxième préoccupation, c'est pour une femme qui n'a pas eu d'enfant tout au long de sa vie, dans son village, est-ce qu'elle peut développer le cancer des seins? Et ici en RDC, est-ce qu'il y a un traitement pour ce genre de cancer?
Merci, docteur Solange.
J'avais dit que la nulliparité ou bien la comment possible, donc le fait de ne pas avoir d'enfant, c'était aussi un facteur de risque. Ça ne veut pas dire facteur de risque, ne veut pas dire que si la personne n'a pas d'enfant a le cancer. Non, c'est une prédisposition. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais qui ne développent pas aussi des cancers. On dit que c'est un facteur de risque, hein, de ne pas en avoir, bien d'en avoir eu très peu. Hein. C'est parmi les facteurs de risque répertoriés.
Voilà, c'est parmi...
Et dans notre pays, pour le traitement chirurgical existe, mais la chimiothérapie aussi peut être faite, mais la radiothérapie, nous l'avons pas dans notre pays. Mais la mastectomie peut être faite. Mais le traitement du cancer dépend de son stade, hein, en fait. Hein? Ça dépend du stade. Donc, en clinique, les médecins connaissent les stades. Il y a des stades où on peut prendre en charge, et il y a des stades où un traitement comme la chirurgie est même risquant, quoi. Donc on peut pas le faire, on peut faire aller vers une chimiothérapie et tout. Mais il y a des stades aussi où la prise en charge, donc on va juste gérer les effets secondaires, les effets, tout ça, et puis faire ce qu'on appelle l'accompagnement.
Voilà. Bien, docteur Solange, voilà, docteur Solange Bondo, gynécologue à la clinique Galima. Nous disons merci et à la prochaine.
Merci, docteur. Merci, monsieur le journaliste. Au capi.